En ce temps-là, Jésus étant monté dans une barque, passa sur l'autre rive. Il vint dans sa ville. Et voici qu'on lui apporte un paralytique étendu sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Confiance, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mais voici que des scribes se dirent en eux-mêmes, « Cet homme-là blasphème. » Voyant leurs pensées, Jésus dit, « Pourquoi ces pensées méchantes dans vos cœurs ? Quel est le plus facile, de dire « Tes péchés te sont remis » ou de dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a pouvoir sur terre de remettre les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton grabat et retourne chez toi. » L'homme se leva et retourna dans sa maison. En voyant cela, les foules furent prises de crainte et elles glorifièrent Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Quelques instants, Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Fêtons aujourd'hui le 18e dimanche après la Pentecôte, vous l'aurez compris. Thème de la guérison du paralytique, nous la connaissons tous et tous nous la connaissons par cœur. Et cependant, nous aurions tort, comme à chaque fois que nous croyons connaître l'Écriture, de refermer l'Évangile aussitôt après avoir écouté cette parole de Dieu et de considérer que on sait déjà tout et qu'on ne peut plus tirer grand-chose de l'Évangile. Vous le savez, la parole de Dieu est comme un millefeuille, elle est un puits sans fond, et chaque passage de l'Écriture qu'on écoute et qu'on réécoute à nouveau comme la Vierge Marie qui tourne et retourne dans son cœur les mêmes mystères de la vie de son Fils, chaque passage de l'Écriture se décline quasiment à l'infini. Alors laissez Dieu vous parler aujourd'hui, laissez-le parler par la bouche de son petit ministre. Voilà. Attardons-nous quelques instants sur ce passage qui est tout à fait singulier. Il s'agit de la guérison d'un paralytique, des guérisons, il y en a pléthore dans l'Évangile, mais cette guérison est particulière à plusieurs titres. D'abord, pour le lieu dans lequel elle se tient. Saint Matthieu nous indique que Jésus l'opère dans sa ville. Mais il ne s'agit pas de la ville de Nazareth, qui a eu le privilège de voir grandir le Sauveur, il s'agit de la ville de Capharnaüm. C'est ce que nous disent les évangiles parallèles, ils nomment explicitement Capharnaüm pour la guérison du paralytique. Capharnaüm, c'est la ville où réside Saint-Pierre. Et c'est, nous le savons par la tradition, la ville où le Seigneur Jésus aimait à se reposer. Il y avait Béthanie, la Jetset, près de Jérusalem, et puis il y avait, plus simple, ce petit village de Capharnaüm où vivaient des pêcheurs comme Saint-Pierre. Le Seigneur, donc, vivait à Capharnaüm, c'était son pied-à-terre. Et il est tout à fait frappant que, pour ce miracle, on soit venu solliciter Jésus dans sa maison. C'est-à-dire que les personnes qui portaient ce paralytique n'ont pas attendu que le Seigneur veuille bien passer au détour d'une ville ou d'un carrefour. Ils se sont donné la peine d'aller jusque chez lui, et non seulement de sonner à la porte, de frapper comme ça se faisait à l'époque, mais, nous disent les parallèles, de monter sur le toit, de retirer les tuiles et de faire descendre le brancard dans la maison du Seigneur Jésus. Inutile de vous dire que Jésus a dû être assez frappé de ce type de procédé. Nulle part on nous dit qu'il les rabroue. Au contraire, sans doute le Seigneur devait-il être touché par cette audace de ces personnes qui étaient certaines d'obtenir un geste du Seigneur parce qu'elles se donnaient la peine de venir chez lui. C'est un des rares miracles que Jésus accomplisse dans sa maison, du moins un des rares relatés dans l'Écriture. Voilà donc le premier motif qui distingue le miracle d'aujourd'hui de tous les autres. Mais il y a aussi un deuxième motif qui distingue ce miracle des autres, ce sont deux petits détails. Peut-être ne les avez-vous pas encore relevés. Il s'agit de cette première phrase, avant la guérison du paralytique, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. C'est-à-dire que c'est assez paradoxal que cette parole du Seigneur, d'habitude on a de la bouche du Seigneur cette phrase, va, ta foi t'a sauvé. C'est parce que tu as cru que je te remets tes péchés et que, accessoirement, je te remets sur pied. Ici, c'est la foi des amis du paralytique qui sont venus le porter devant le Seigneur qui sauve en quelque sorte le paralytique. C'est au nom de la foi de ses amis et non pas de la sienne propre, à laquelle il n'est pas fait allusion ici, explicitement, que le Seigneur lui remet et son mal physique et la peine due à ses péchés. Ça, c'est le premier détail qui frappe et qui le distingue de tous les autres miracles. Il y a un deuxième détail qui frappe, c'est après la guérison cette fois-ci, Jésus qui donne cette consigne au paralytique, « Prends ton grabat et rentre chez toi ». C'est quand même très étonnant. Si les trois évangélistes qui racontent le même événement du paralytique guéri chez le Seigneur Jésus prennent la peine de nous dire que Jésus lui a dit « Prends ton grabat et retourne chez toi », c'est bien qu'il y a une symbolique particulière. Ils ont été frappés par ce détail. En effet, on pourrait s'attendre à ce que le Seigneur ne s'attarde pas sur le sort du grabat, on s'en moque. C'était le lit de douleur de ce pauvre paralytique. Et voilà que le Seigneur lui dit « Prends ton grabat, amène-le chez toi ». Au lieu de lui dire « Mets-le de côté, mets-le à la poubelle » ou même de ne rien lui en dire. Nous verrons que ces détails ont bien sûr leur importance. Mes frères, ces deux détails donc me semblent riches, notamment dans la perspective que je voudrais envisager aujourd'hui, qui est celle de la responsabilité. Dieu a voulu que l'homme soit un être responsable. Il a eu tellement d'amour pour cette petite créature que nous sommes qu'il lui a fait le don de la responsabilité. C'est-à-dire qu'il nous prend au sérieux. Vous savez que les seules personnes à qui on ne demande aucun compte, qui n'ont aucune responsabilité, ce sont les petits-enfants. Eh bien, Dieu nous estime adultes. Il estime que nous ne sommes pas des petits bambins incapables de se prendre en main. Alors, il veut que nous soyons responsables. Et il est frappant du reste de constater que la première parole que Dieu adresse à nos premiers parents, dans le jardin des délices, le jardin originel, c'est « Soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre ». Il ne leur dit pas « Je vous aime, j'ai tel dessein pour vous ». Il leur donne tout de suite une responsabilité l'un envers l'autre, envers les générations à venir, « Multipliez-vous » et « Soumettez la terre », c'est-à-dire envers la création. Selon l'évangile d'aujourd'hui, je crois que la responsabilité se décline selon deux lignes. Il y a une responsabilité collective, si l'on veut, c'est-à-dire la responsabilité de moi-même à l'égard de mon prochain. Ça, c'est la phrase « Voyant leur foi, il dit au paralytique, va, tes péchés te sont pardonnés ». Vous voyez, il y a une responsabilité des amis du paralytique à l'égard du paralytique lui-même. Puis il y a une deuxième ligne de responsabilité qui apparaît dans cet évangile, c'est une responsabilité personnelle. Prends ton grabat et rentre chez toi, ça implique tout un raisonnement sur la responsabilité du paralytique. C'est pas tout d'être sauvé, encore faut-il qu'il se prenne en main, qu'il prenne son grabat, c'est-à-dire sa pauvre petite vie. Alors quant à la responsabilité collective, quant à la responsabilité de chacun vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis d'autrui, dans le plan de Dieu, nous savons bien que l'être humain est un être naturellement social. Dieu aurait pu faire en sorte que nous soyons les uns à côté des autres, dans un parfait égoïsme, dans une parfaite suffisance. Ce n'est pas le cas. Dieu a voulu une interdépendance entre les êtres humains. D'emblée, ce qui sort des mains de Dieu, c'est pas un homme ou deux hommes, c'est un homme et une femme. Il y a tout de suite deux êtres qui sont en parfaite complémentarité l'un avec l'autre, de telle sorte qu'ils sont immédiatement en mesure d'être féconds. Vous voyez que dans le dessein de Dieu, dès le début, l'homme est fait pour vivre avec les autres et pour avoir une communion avec le reste de la race humaine. Et du reste, l'expérience de solitude d'Adam, vous savez, en Genèse au chapitre 2e, on nous dit qu'Adam, que Dieu vient de façonner avec la glaise, se retrouve seul et qu'il est bien idiot tout seul. Il ne trouve pas encore chaussure à son pied, il ne trouve pas d'alter ego, alors il n'est pas dans la plénitude de ce qu'il devrait être. Il n'est pas pleinement heureux, il n'est pas pleinement homme. Il faut qu'il attende que Dieu lui fasse une aide semblable à lui-même pour qu'enfin il exulte et qu'il dise « Voici la chair de ma chair, voici l'os de mes os ». Vous voyez, l'homme seul est, nous dit Pascal, du reste, soit une bête, soit un dieu. Et c'est très vrai. Nous sommes faits pour être en communauté. Alors, nous sommes faits pour être en communauté, nous sommes faits pour avoir des liens, et ces liens impliquent des responsabilités. Des responsabilités, il y en a de tous ordres, évidemment. Il y a la responsabilité éminente de celui qui a une autorité. Ça, dans l'Écriture, on ne cesse de nous en parler. C'est très clair. À chaque fois qu'il y a une autorité, découle une responsabilité. Et Dieu demande des comptes de la façon dont l'autorité est exercée. Alors, cette autorité et cette responsabilité connexe, eh bien, elles existent pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire, c'est ce pauvre Adam qui avait autorité dans le couple et à qui s'adresse en premier lieu Dieu. Adam, où es-tu ? C'est ce pauvre Caïn qui vient de tuer son frère alors qu'il en est l'aîné et qu'il l'avait sous sa responsabilité, sous sa garde, et à qui Dieu dit « Caïn, qu'as-tu fait de ton frère ?» C'est la responsabilité de Lazare, ce mauvais riche, je veux dire, à l'égard du pauvre Lazare. Ce mauvais riche, il avait une responsabilité puisqu'il avait de l'argent. Il aurait dû en faire profiter le pauvre Lazare. Il ne l'a pas fait, eh bien, il se damne. Tandis que là, est au sein d'Abraham. Vous voyez, il y a toute une série de responsabilités. Je veux parler encore des pharisiens et des scribes à qui Jésus demande des comptes et sur quel ton. Ça fait quelques semaines qu'on voit Jésus régler ses comptes avec les pharisiens, les oreilles bourdonnent, parce que les pharisiens et les scribes sont les élites de la loi. Ils étaient faits pour mener le peuple au culte en esprit et en vérité. Et puisqu'ils n'ont pas voulu assumer cette responsabilité, exercer leur autorité, eh bien Dieu la leur retire et les met de côté. Et on voit comment, en 70, chute du temple, sans dire du peuple ancien. Mais responsabilité, il faut quand même finir avec une note qui va mieux, pour le meilleur. Songez à cette médiation de Moïse qui obtient de Dieu par négociation. Bien, fils d'Abraham, par négociation, il arrive d'obtenir de Dieu que, parce qu'il y a quelque juste dans une ville, eh bien, toute la ville soit épargnée. Pourquoi a-t-il l'oreille de Dieu ? Parce que Dieu lui a donné une responsabilité, une autorité, et que Moïse se montre à la hauteur. Du reste, Salomon, si Salomon ne se fait pas griller sur place par Dieu, c'est eu égard, et Dieu le lui dit, eu égard à son père, le grand David, qui avait l'oreille de Dieu parce qu'il avait été fidèle, en dépit de quelques petites historiettes, il a globalement été fidèle, il avait le cœur tendre. C'est comme ça qu'il est qualifié dans l'Écriture. David, c'est le roi fidèle, même si nous savons bien que toute sa vie n'a pas été que rose et absolue soumission à la volonté divine. Mais globalement, il s'en tire bien, et c'est à ce titre-là que Salomon conserve la vie. Son père a bien voulu exercer l'autorité, il a bien voulu assumer ses responsabilités lorsqu'il péchait. Eh bien, Salomon bénéficie de cette conduite de son père. Vous voyez qu'il y a une solidarité dans le bien, une solidarité dans le mal de toute la race humaine qui suit une ligne de la responsabilité. À l'égard de cette responsabilité, à chaque fois que nous en usons bien, Dieu est d'une largesse incroyable. Et à chaque fois que nous en usons mal, Dieu est d'une rudesse tout aussi imposante. On le voit dans toute l'Écriture. Il existe encore bien d'autres types de responsabilités. La responsabilité qui consiste à avoir des égards envers mon ami. La responsabilité d'un groupe d'amis envers un des leurs qui n'est pas bien portant. C'est le cas aujourd'hui dans l'histoire de ce paralytique. Ses amis estiment qu'ils ont une responsabilité. Ils savent qu'il existe un rabbi, ils ne savent pas trop qui est ce rabbi, mais ce rabbi Jésus fait des miracles. Eh bien, nous allons voir ce rabbi Jésus. Il est de notre devoir d'amener jusque chez ce rabbi notre ami paralytique afin qu'il soit guéri. Vous voyez la responsabilité des hommes les uns envers les autres. Cette responsabilité des uns envers les autres, nous savons dans quel état piteux elle est. Il y a aujourd'hui une crise plus que jamais, je pense, de l'autorité et de la responsabilité. Sans cesse, nous cherchons, et nous sommes bien de notre siècle, alors, en train de nous regarder nous-mêmes en toute honnêteté, nous sommes de cette race et de ce siècle. Alors nous avons cette tendance fâcheuse à toujours repousser sur les épaules des autres la responsabilité qui, normalement, est la nôtre. Connivence des uns avec les autres, cette responsabilité à l'égard de mon prochain, nous sommes sans cesse en train de la fuir. En revanche, nous sommes toujours là pour revendiquer la responsabilité des autres à notre égard. Que l'État paye ses dettes, que notre prochain ait des égards pour nous, alors ça nous paraît la moindre des choses. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est venu résoudre cette situation difficile dans laquelle nous sommes, à l'égard de la responsabilité, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Le Fils de Dieu qui s'est incarné pour nous montrer ce qu'était la vraie autorité. Je suis le bon pasteur qui livre sa vie pour ses brebis. Il n'avait finalement aucune responsabilité, ce Jésus. Il n'avait pas la responsabilité qu'avait l'empereur romain occupant, il n'avait pas la responsabilité du roi Hérode, ni celle du grand prêtre, ni celle des élites du peuple, et voilà qu'il accepte d'assumer toutes ses responsabilités à la fois, et mieux encore, d'assumer la responsabilité de tous les maux, de tous les temps. Il s'est fait péché pour nous, c'est ce que nous dit saint Paul. Lui qui est absolument pur de toute faute et qui n'a aucune responsabilité, il est Dieu, il est créateur, il a tout fait bien, il a tout fait bon, c'est la créature qui défigure sans cesse ce qu'elle est, et voilà qu'il assume une responsabilité qu'il n'avait pas. C'est ce modèle du Seigneur Jésus. Alors, lorsque nous avons cette tendance spontanée à défausser nos responsabilités et à imputer toutes sortes de responsabilités à nos tiers, ou songeons à cette figure du Seigneur Jésus. Il n'avait aucune responsabilité et il a voulu pourtant épouser toutes les conséquences du mal, du péché et porter tout cela sur lui. J'en finis avec la responsabilité collective, la responsabilité de chacun envers l'ensemble de la communauté, envers son prochain. Et j'attaque, mais pour conclure, une deuxième sorte de responsabilité, j'entends la responsabilité à l'égard de soi-même. La responsabilité personnelle, qui n'est pas du tout plus facile à assumer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et qui est impliqué dans cette remarque, « Prends ton grabat et rentre chez toi. » Le Seigneur, je vous le disais tout à l'heure, aurait pu se contenter de dire, « Ça y est, je t'ai soigné, rentre chez toi. » Non, il prend le soin de dire, « Prends ton grabat et rentre chez toi. » Les pères de l'Église voient, et toutes sortes de commentateurs, dans ce grabat, la nature humaine défigurée par toutes sortes de péchés, de souffrances, c'est ce qu'est finalement le paralytique qui vient d'être soigné profondément. Le Seigneur Jésus lui dit, ce n'est pas parce que je t'ai remis tes péchés et parce que je t'ai soigné physiquement que pour autant tu dois oublier qui tu es. C'est à toi et te livrer totalement de façon passive entre mes mains. Je t'ai nourri aujourd'hui, je t'ai relevé de tes fautes et je t'ai relevé physiquement. N'estime pas que désormais tu seras au gré de ma providence comme un naïf totalement candide. Non, c'est à toi de te prendre en main. N'oublie pas que ta nature est défigurée, c'est un grabat, c'est un lit de misère. Il y a de belles choses, mais il y a aussi des choses plus obscures dans ta vie. N'oublie pas non plus par ce grabat que je t'ai relevé. Tu étais autrefois sur un lit de douleur, désormais tu es debout. Ne sois pas ingrat et souviens-toi d'où tu viens. Vous pensez immédiatement à cette série de cannes, de béquilles ou de grabats qui sont au pied de Notre-Dame dans la grotte de Lourdes. Et oui, en gage de reconnaissance, des personnes qui se souviennent qu'elles étaient profondément blessées et qui, pour la gloire de Dieu et pour la conversion des âmes, manifestent l'œuvre de Dieu. Elles viennent donc apporter en hommage leur béquille. Eh bien, c'est un peu ce que Dieu demande. À la fois, continue à assumer ton grabat, porte-le, c'est ta vie avec tes misères, mais sois responsable de ta vie, compte sur ma grâce, et d'autre part, sois reconnaissant à l'égard de ce que j'opère dans ta vie de misère, sois reconnaissant, souviens-toi que tu n'étais pas grand-chose et que j'ai bien voulu te sauver, j'ai bien voulu te guérir. Vous voyez ce que ce petit exposé sur la responsabilité que nous avons chacun à l'égard d'autrui et que nous avons chacun à l'égard de nous-mêmes, je crois, est tout à fait fructueux. Demandons à la lumière du Saint-Esprit que le Seigneur achève d'introduire dans vos cœurs ce que j'essaye de communiquer à vos intelligences avec peine. Voilà, cette responsabilité. Nous sommes des fils de Dieu. Nous avons cette dignité de fils de Dieu. Cette dignité d'être des personnes responsables. Ne fuyons pas cette responsabilité parce que c'est précisément là que réside notre dignité. Laissons-nous guider par celui qui a assumé toute responsabilité alors qu'il n'en avait aucune en se laissant crucifier sur la croix par amour pour nous.